15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste. Et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'insuffisance cardiaque, une maladie qui concerne au moins 1 million de patients en France, souvent dépistée trop tard malheureusement. Avec notre invitée, la cardiologue Florence Beauvais, nous ferons le point sur les signes qui doivent alerter et sur les traitements de cette maladie. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des génériques. Sont-ils vraiment des médicaments comme les autres et peut-on éventuellement les refuser? Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de quelque chose qui est un peu plus qu'un bobo d'ailleurs aujourd'hui, le syndrome d'alcoolisation fœtale. On fera le point sur la consigne du zéro alcool pendant la grossesse, une consigne excessive ou qu'il faut vraiment suivre. On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de sexe bien sûr, mais aussi d'amour. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle d'Olivier, 53 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, depuis 6 mois, je me réveille la nuit et donc plusieurs fois, et assez urgemment donc pour aller uriner. Ma femme s'inquiète parce qu'elle me dit d'aller consulter un médecin, parce que ça doit être sans doute un problème de prostate. Donc je voudrais savoir voilà, ce que vous en pensez et si je devrais vraiment consulter un médecin. Merci.
Alors Jimmy, il faut préciser que le fait de se lever souvent la nuit pour uriner, en fait c'est un trouble qui porte un nom, ça s'appelle la nycturie, hein, c'est ça?
Exactement, c'est le fait de se lever la nuit pour aller uriner au moins une fois, parfois plus, entre deux phases de sommeil. Alors c'est vrai que ça touche plutôt les hommes à partir de 50-60 ans, mais ça peut aussi toucher les femmes et aussi le sujet qui peut être un peu plus jeune.
Alors, comme vous venez de le dire, ça touche plutôt des hommes, bon des femmes aussi, mais ce que j'imagine c'est que quand c'est les hommes, c'est pas quand même toujours dû à un problème de prostate.
C'est souvent quand même la prostate, forcément avec la prostate augmente de volume et on peut avoir ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate et 80% des gens qui ont cette hypertrophie vont avoir cette nycturie, donc vont se lever la nuit et forcément vont être gênés. Attention, c'est un vrai impact. Si vous vous réveillez la nuit, vous dormez moins bien. Comme vous dormez moins bien, vous êtes un peu plus dépressif, un peu plus stressé, vous mangez moins bien, vous avez un syndrome métabolique qui conduit à des maladies cardiovasculaires, donc ça peut être un vrai problème qu'il faut prendre au sérieux.
Donc il faut vraiment penser effectivement à la prostate en premier peut-être, mais si c'est pas la prostate, ça peut être quoi d'autre en fait?
Alors si c'est pas la prostate, ça peut venir des médicaments qu'on prend. On en parlera tout à l'heure, mais les médicaments diurétiques, ceux qui vont faire pipi, peuvent vous donner envie d'aller aux toilettes plutôt la nuit, c'est pour ça qu'on les prend le matin. Si on a un syndrome d'apnée du sommeil, ben on a un sommeil de moins bonne qualité, et donc forcément on va se réveiller entre deux cycles. Et puis parfois, on peut avoir ce qu'on appelle le diabète qui est mal équilibré, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Lorsque le diabète est très mal équilibré, eh ben on va faire pipi beaucoup plus souvent, mais on fait aussi pipi la journée. Donc attention, c'est pas toujours la prostate.
Bon, l'idéal, c'est de toute façon consulter pour essayer de trouver pourquoi on fait pipi comme ça la nuit souvent. Ça peut pas être aussi juste dû pour terminer à un problème d'hygiène, parce qu'on boit trop, on mange pas ce qu'il faut. Enfin,
oui, notre mode de vie peut évidemment jouer, et notamment ce qu'on mange, mais surtout ce qu'on boit. La caféine, le thé, l'alcool sont des diurétiques, et les sodas font aussi uriner. Donc évitez de prendre ça le soir, vous verrez, vous dormirez déjà nettement mieux.
Et alors quand on a cette nycturie, parce que bon, ben, on a un problème de prostate ou autre, est-ce qu'il y a des traitements quand même pour régler ça?
Bien sûr, il faut consulter, il faut savoir pourquoi est-ce que vous allez faire pipi la nuit. Souvent on prescrit un traitement qu'on appelle un alpha-bloquant, et puis ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc oui, des traitements existent, il faut consulter.
Super, donc effectivement on consulte. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une future maman, Juliette, 28 ans, on écoute sa question.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai une petite question pour vous, parce que je suis enceinte depuis 3 mois et je suis végétarienne et du coup je me pose quelques questions par rapport au régime alimentaire, s'il faut que j'adapte pour la santé du bébé ou pas, est-ce qu'il faut que je remange de la viande. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, c'est fou, hein. D'abord, c'est vrai qu'on a vraiment très souvent des questions sur le régime végétarien, végétalien, c'est pas la première fois. Mais là, c'est une question un peu spécifique. Chez la femme enceinte, est-ce que c'est dangereux ?
Alors, être végétarien, ce n'est pas forcément dangereux si on est accompagné, puisque finalement, on arrive à tirer des protéines d'origine animale dans les graisses, dans les protéines d'origine végétale. Donc, on arrive à compenser. En revanche, végétalien, on refuse tout ce qui est issu des animaux, donc on va refuser forcément l'œuf, le fromage.
Oui.
Et donc là, on peut s'exposer à des carences qui peuvent avoir des conséquences pour la maman, mais aussi pour le bébé. Donc oui, vous pouvez, mais faites-vous suivre notamment ou aider par un nutritionniste.
Parce qu'en fait, on va manquer de protéines, mais on peut manquer aussi de calcium, de fer. Le fer, par exemple, pour les femmes enceintes végétariennes, on le trouve où ?
Alors, déjà,
parce
le fer.
Il y en a beaucoup dans la viande, normalement.
Alors,
mais...
C'est très important de dire parce que le fer, ça contribue au bon développement du fœtus. Et puis, à la fin de la grossesse, on épuise ses réserves. Et si vous avez un accouchement avec des saignements, eh ben, vous allez être encore plus carencé et avoir une anémie. Donc, forcément, ça peut être plus compliqué. Donc, en revanche, le fer, on en trouve certes dans la viande, mais on en trouve aussi dans les œufs, dans les légumes secs, dans le persil, par exemple. Mm-hmm. Donc, on a d'autres sources, évidemment, de fer. Mais encore une fois, il faut aller les chercher. Donc, le problème, c'est le fer. Il y a aussi le calcium. Donc attention, notamment à la vitamine B12 chez les végétaliens.
Ah oui, celle-là, elle n'est que dans la viande. Enfin,
exactement.
Les,
et si vous n'avez pas de vitamine B12, ça paraît comme ça trivial, la vitamine B12 peut avoir un retentissement sur le cerveau. Donc vraiment...
Le cerveau du bébé.
Le
donc,
cerveau
hein,
du bébé et de la maman.
Ah oui, d'accord.
Donc on peut avoir de graves troubles neurologiques. Donc vraiment... Vous pouvez le faire, mais faites-vous accompagner, allez voir un nutritionniste.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Olivier ou la jeune fille qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 3921, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des génériques. Sont-ils vraiment des médicaments comme les autres ? Peut-on les refuser ? Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, la cardiologue Florence Beauvais. Aujourd'hui, on fait le point sur une maladie qui touche plus d'un million de Français, l'insuffisance cardiaque. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes le docteur Florence Beauvais, cardiologue, avec qui on va parler aujourd'hui d'insuffisance cardiaque. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des génériques. D'abord, c'est quoi concrètement un médicament générique ?
Alors, un médicament générique, c'est un médicament dont la molécule est extraite d'un médicament qui existe déjà, un médicament qu'on appelle Princeps, mais dont le brevet est tombé dans le domaine public, et ce qui veut donc dire qu'on peut finalement, en quelque sorte, le copier, donc on ouvre au marché pour que le médicament coûte moins cher.
Alors, imaginons, on me propose des génériques pour mon angine, par exemple, de refuser ?
Non, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, moi, souvent, on me demande est-ce que vous acceptez les génériques lorsqu'ils voient que je suis prescripteur, mais on n'en a strictement rien à faire. Oui, moi, je prends des génériques, je laisse mes enfants en prendre. C'est exactement le même médicament, c'est à la même dose, le même effet dans le sang, la même élimination. Donc, finalement, c'est exactement la même chose, à quelque chose près. On parlera tout à l'heure des excipients.
Alors justement, dans quel cas on peut ou on doit peut-être les éviter, ces génériques ?
Alors, les génériques, donc c'est la même molécule, donc ça aura le même traitement, la même efficacité. En revanche, c'est accompagné d'un excipient, c'est tout ce qui donne la couleur, la forme et qui permet une absorption du médicament. Et là, l'excipient peut contenir des choses qui peuvent être parfois un peu dérangeantes, comme par exemple le lactose. Donc si vous êtes intolérante au lactose, eh ben, vous pouvez avoir des effets secondaires. Même chose si jamais vous avez certaines maladies. Donc c'est la seule chose qui diffère. Donc en gros, vous n'avez aucune raison de refuser des génériques, car finalement, ça coûte moins cher.
Si malgré tout, moi je m'en fiche, je veux les refuser, imaginons, ce qui n'est pas mon cas du tout, moi je consomme des génériques, mais une fois au comptoir de la pharmacie, est-ce que je peux dire j'en veux pas ?
Oui, on a le droit, évidemment. La seule chose, c'est qu'on ne bénéficie plus du tiers payant, ce qui veut donc dire qu'on doit avancer les frais, et ensuite le pharmacien vous donne une petite feuille de soins, que vous envoyez à la Sécurité sociale, qui vous remboursera en enlevant la différence du surcoût par rapport au médicament original. Donc finalement, vous pouvez, mais ça n'a pas un très grand intérêt.
Parce que ça vous coûte plus cher en plus.
Exactement.
Alors merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle d'insuffisance cardiaque avec donc le docteur Florence Beauvais. Elle est cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Beauvais.
Bonjour Mélanie.
Alors, d'abord, on va bien poser le contexte avec vous. L'insuffisance cardiaque, c'est 1 million de patients en France. C'est la cause de nombreuses hospitalisations. Mais pour qu'on comprenne bien, quand on est atteint par cette insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi pour le cœur ? Il se passe quoi dans mon organisme ?
Alors, Que se passe-t-il quand on est atteint d'insuffisance cardiaque ? En fait, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome, c'est une maladie au cours duquel le débit sanguin va être diminué. Et de ce fait-là, l'organisme va réagir d'une certaine façon et entraîner un certain nombre de symptômes avec le risque d'hospitalisation.
Et donc le cœur, il fonctionne plus correctement ? Il fonctionne en sous-régime peut-être, c'est ça l'image ? Ou la pompe, elle marche plus aussi bien ?
On peut considérer qu'il fonctionne en sous-régime et aussi qu'il va entraîner ce qu'on appelle une augmentation des pressions en amont de ce cœur qui vont entraîner un certain nombre de symptômes, en particulier l'essoufflement et parfois des œdèmes au niveau des membres inférieurs.
Jimmy ?
Et on finit tous par devenir insuffisant cardiaque, c'est une maladie aussi liée à la vieillesse ?
Alors c'est une maladie qui est en rapport avec l'âge, mais pas seulement, et heureusement, hein, on a parlé d'un million de patients insuffisants cardiaques, il y en a probablement plus. Tous les patients âgés ne sont pas insuffisants cardiaques, mais clairement, le vieillissement du cœur favorise l'insuffisance cardiaque. Mais le vieillissement n'est pas la seule cause de l'insuffisance cardiaque, et là, j'aimerais insister dessus. On parle toujours de l'insuffisance cardiaque comme une maladie du sujet âgé, ce n'est
pas
le cas.
Ce qui est quand même vrai un petit peu.
Ce qui est vrai pour une grande partie des patients, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ne sont pas âgés. Et il y en a un certain nombre, en particulier des patients qui ont autour de 50 ans, voire même des patients plus jeunes. Les causes de cette insuffisance cardiaque vont être différentes en fonction de l'âge auquel on va être atteint. Mais bien
pourquoi
évidemment,
on devient insuffisant cardiaque, par exemple, à 40 ans
Alors, à 40 ans, on peut avoir de l'insuffisance cardiaque parce qu'on a fait un infarctus. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait des infarctus jeunes. Parce qu'on a ce qu'on appelle une cardiomyopathie. Et alors, il y a beaucoup de causes de cardiomyopathie, des cardiopathies familiales, mais également des cardiopathies toxiques, et donc parfois même des cardiopathies infectieuses. Il y a certains virus qui peuvent donner des cardiomyopathies. Donc on peut avoir cette atteinte jeune. Bien évidemment, ça atteint plus souvent les sujets âgés, mais comme toutes les maladies.
Alors on va en parler dans quelques minutes, c'est une maladie dont la prise en charge en France est plutôt chaotique. Pour plusieurs raisons, on va y revenir, mais étant donné que c'est quand même une maladie, donc vous l'avez dit, pas que de personnes âgées, mais en majorité de gens âgés, ça ne devrait pas s'arranger là, dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population.
Eh bien oui, paradoxalement, on soigne de mieux en mieux les gens. Clairement, les patients qui font des infarctus, les patients qui sont hypertendus, les patients qui sont diabétiques, on les traite de mieux en mieux, et tant mieux, c'est très bien. Mais ça n'empêche pas le fait que le cœur finit par se fatiguer, et de ce fait-là, ça majore le risque d'avoir une insuffisance cardiaque.
Et c'est pour ça qu'il va donc falloir mieux dépister cette maladie à l'avenir. Aujourd'hui, trop de patients se font dépister trop tard. On en reparle dans un instant avec vous, docteur Beauvais.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc rentrer dans le concret. Quels sont les signes qui doivent faire penser qu'on souffre peut-être d'une insuffisance cardiaque ? Il y en a 4, faciles à reconnaître, vous allez voir, qui doivent pousser à consulter. Plus on est pris en charge tôt, plus vite on peut se faire soigner et préserver son cœur. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Florence Beauvais. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Lariboisière, à l'assistante publique Hôpitaux de Paris. Alors comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous allez nous donner les 4 signes qui doivent faire penser à l'insuffisance cardiaque. Vous, les cardiologues, vous les avez regroupés sous un acronyme EPOF, E-P-O-F. Ça veut dire quoi alors, toutes ces lettres?
Ça veut dire quoi? Alors justement, on a essayé de simplifier un petit peu les choses. Le premier symptôme quand on est insuffisant cardiaque, c'est d'être essoufflé. Le E de EPOF, tout à fait. C'est le symptôme qui est le plus fréquent. Par contre, pris isolément, il n'est pas suffisant pour faire le diagnostic. Donc, on a essayé de trouver quels étaient les autres symptômes qui pouvaient d'autant plus faire évoquer ce diagnostic. Donc, il y a 3 autres signes qui doivent faire évoquer le diagnostic. C'est donc E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème, et F pour fatigue.
Alors juste prise de poids, ça veut dire quoi? Je grossis, je suis essoufflée, ça y est, je suis insuffisant cardiaque.
Non, alors bien évidemment, en fait, les 2 premiers symptômes qu'on va le plus souvent repérer, donc c'est l'essoufflement, des essoufflements pour des efforts modérés. Si on n'arrive pas à monter plus de 2 étages sans s'arrêter, il faut quand même être interpellé, ça c'est une chose. Et puis ensuite, les œdèmes. Les œdèmes, eh bien, c'est quand on a les jambes qui gonflent, qu'on commence à avoir du mal à mettre ses chaussures. Classiquement, on les décrit comme blanc mou prenant le godet, c'est-à-dire qu'on appuie sur la cheville, l'empreinte reste, et donc ça veut dire qu'on a des œdèmes. Et ces œdèmes peuvent devenir de plus en plus importants, remonter jusqu'au mollet, jusqu'aux cuisses. Et dans ce cas-là, on a une prise de poids, parce qu'en fait, c'est une rétention d'eau et de sel, et ça entraîne une prise de poids. Et chez certains patients, il y a des prises de poids en 2-3 jours, de 3 à 4 kilos.
Ah
et
oui,
ça, c'est pas
énorme.
De la graisse.
Jimmy ?
Alors, le congrès de Société européenne de cardiologie vient de se terminer. Vous avez présenté une étude où vous montrez que dans la majorité des cas, les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque l'étaient déjà auparavant, mais ignoraient leurs symptômes.
Alors, en fait, là, c'est le groupe insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie, dans lequel je travaille, qui a fait une étude. Alors, en fait, c'est la première étude qui décrit un petit peu le parcours de soins des patients insuffisants cardiaques vus par le patient insuffisant cardiaque. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces patients avaient des symptômes, mais ont mis beaucoup de temps à consulter. Et même quand ils ont consulté, quand ils ont été hospitalisés, eh bien, clairement, ils n'ont pas complètement intégré qu'ils étaient insuffisants cardiaques.
Ils en avaient parfois depuis plus de 2 mois des symptômes. C'est ça que vous montrez dans votre étude. Hein,
dans l'étude que l'on a, en effet, donc c'est une étude qui a été faite auprès de patients insuffisants cardiaques, chez lesquels le diagnostic a été porté, mais on n'orientait pas le questionnaire vers l'insuffisance cardiaque. Et on s'est rendu compte donc, que les patients ont été hospitalisés pour une insuffisance cardiaque et la moitié des patients avaient des symptômes depuis au moins 15 jours et un tiers des patients avaient des symptômes depuis au moins 2 mois. Donc la question, c'est que s'est-il passé durant les 2 mois ?
Parce qu'ils ont peut-être vu des généralistes.
Voilà, c'est ça, parce que nous, on est responsables généralistes. Est-ce qu'on a ignoré leurs symptômes lorsqu'ils venaient pour une banale angine au rhume ? On aurait peut-être pu aller plus loin. Ou peut-être le patient, finalement, a minimisé ses symptômes. Ou qui est coupable ?
En fait, il n'y a pas réellement de coupable, bien évidemment. Hein. Je pense que tous les médecins généralistes font tout à fait bien leur métier. Alors c'est vrai que quand on est essoufflé, c'est pas l'insuffisance cardiaque. C'est pas le diagnostic auquel on pense en priorité, mais pourtant faut y penser. Et alors déjà, je pense que le patient lui-même peut avoir ça en tête. Hein.
En retenant le EPOF, prise de poids, œdème, fatigue, si on a tout ça, surtout on y pense.
Tout à fait, parce que quand un patient a une douleur dans la poitrine, il va se dire, ah, c'est peut-être le cœur. Quand un patient a une paralysie, il va se dire, ah, tiens, j'ai peut-être un problème neurologique. Donc là, il y pense. Bah, c'est pareil pour EPOF, il faut se dire, tiens, j'ai peut-être un problème cardiaque. Bon, toujours est-il que le médecin généraliste, en général, connaît ses signes, mais il peut aller consulter aussi le pharmacien. Enfin, c'est vraiment important que tout le monde le connaisse, hein, pas seulement le généraliste. Mais quand le patient va être alerté, eh bien, il faut qu'il aille consulter, ça c'est une chose, et on se rend compte que tous les patients dans cette étude n'ont pas consulté.
Et on va consulter qui été... Le généraliste ou le cardiologue ?
On va commencer par le généraliste. Et alors, l'idée, c'est que le généraliste fasse les examens qu'il faut pour pouvoir confirmer le diagnostic et puis adresser le patient dans une filière de soins adaptée. Et c'est les choses qui sont en train de se mettre en place.
Et donc, en cardiologie, parce qu'on est d'accord, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à consulter tôt, se faire soigner cette insuffisance cardiaque le plus tôt possible ?
Oui, il y a un bénéfice. Alors, je reviens un petit peu sur le diagnostic. Il y a juste un diagnostic qu'on peut faire très facilement, c'est faire une prise de sang avec un dosage d'une hormone qu'on appelle le BNP. Quand ce BNP est élevé, ça veut dire qu'on a de l'insuffisance cardiaque. Donc oui, on peut faire le diagnostic facilement et oui, on peut traiter pour évoluer et pour éviter la progression de la maladie.
Alors vous restez avec nous, docteur Beauvais. Dans un instant, on va continuer à parler d'insuffisance cardiaque, mais cette fois de l'après-diagnostic, parce que là aussi, la prise en charge n'est pas idéale aujourd'hui en France. On va voir comment faire mieux.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on va donc parler des traitements de l'insuffisance cardiaque et même des 4 conseils. Et oui, chez les cardiologues, ça marche toujours par 4, vous allez voir. Les 4 conseils très pratiques qui permettent aux patients de garder un cœur en forme le plus longtemps possible. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Florence Beauvais, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors vous, vous êtes spécialiste de l'insuffisance cardiaque et justement, vous dirigez une unité de réadaptation cardiaque pour ces malades. C'est quoi ce genre de centre? Justement, on y fait quoi?
Alors, donc oui, je travaille en effet dans l'unité de réadaptation cardiaque de l'hôpital Lariboisière au sein du service de cardiologie. Et nous avons la chance d'avoir une unité de réadaptation cardiaque au sein du service de cardiologie parce qu'en général, ces services sont en dehors. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un service de réadaptation cardiaque? Et bien dans ce service, on va pas seulement réentraîner les patients à faire des efforts, mais on va également les éduquer sur un certain nombre de choses qui vont leur permettre de ne pas refaire d'événements qui entraîneraient un infarctus quand ce sont des patients qui ont fait un infarctus ou d'autres problèmes, d'autres événements cardiovasculaires. L'objectif, c'est que les patients ne refassent pas d'événements cardiovasculaires et puissent vivre une vie la plus normale possible.
Jimmy ?
Alors, je crois que les chiffres sont assez catastrophiques en termes de réadaptation cardiovasculaire. Apparemment, après un épisode d'insuffisance cardiaque, il faudrait tous aller dans un de vos centres. La seule chose, c'est que les chiffres apparemment sont dramatiques. C'est apparemment 1 patient sur 10 seulement. Moi, je vais être honnête, j'en ai vu aucun aller dans un centre de réadaptation. Les seuls qui y vont, c'est après un infarctus, parce qu'ils comprennent qu'il faut réentraîner le cœur comme un muscle à l'effort. Mais pour tous les autres, aucun n'y va.
Alors, c'est vrai. Alors, tous les chiffres, notre étude le montre, mais les études qui avaient été faites auparavant disaient la même chose. C'est qu'actuellement, il n'y a qu'un patient sur 10 insuffisant cardiaque qui bénéficie d'un programme de réadaptation cardiaque dans un centre de réadaptation cardiaque. On est à peu près autour de 25-30% pour les infarctus, ce qui n'est pas encore l'idéal.
Ouais, même ceux qui font un infarctus, ils n'y vont pas tous. Alors que ce serait quasiment obligatoire, c'est recommandé en tout cas.
En tout cas, c'est dans les recommandations. Tout le monde devrait y aller. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de centres. Donc, bien évidemment, il faut trouver des solutions, puisqu'il n'y a pas suffisamment de centres. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le traitement de l'insuffisance cardiaque, ça existe. Ça repose bien évidemment sur des traitements, des médicaments qui doivent être pris régulièrement. Mais ça repose également sur d'autres stratégies sur lesquelles on va parler.
Justement, on va revenir sur les traitements juste après. Mais juste terminer sur la réadaptation cardiaque. Il y a vraiment une différence entre un patient qui va en bénéficier et un autre qui n'ira pas dans ce genre de centre. D'ailleurs, on ne dort pas toujours là-bas. Hein. Ça peut être en ambulatoire.
Tout à fait.
On peut rentrer chez soi le soir et aller bénéficier de ses cours la journée quand on en a besoin. Mais il y a une vraie différence. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Comment ils se sentent mieux, les patients qui en bénéficient?
Tous les patients qui sont venus en réadaptation cardiaque sentent en effet un bénéfice, hein, parce que l'exercice physique en soi est réellement une thérapeutique qui améliore le fonctionnement de l'organisme, qui améliore globalement le fonctionnement de l'organisme et particulièrement chez les patients insuffisants cardiaques. Donc oui, ils se sentent tous mieux. Ça, il n'y a pas de doute. Et en plus, on montre que ça diminue le risque de réhospitalisation, d'être passé dans un service de réadaptation cardiaque.
Donc c'est vraiment dommage que tous les patients, effectivement, n'en bénéficient pas. Et donc, dans ces centres de réadaptation, on peut y apprendre les fameux 4 conseils pour mieux vivre quand on a un insuffisant cardiaque. Là aussi, ces 4 conseils, vous les cardiologues, vous les avez réunis sous un acronyme. Alors, il y avait EPOF, ça c'est pour le dépistage. Et là, c'est EPON, E-P-O-N. Ça veut dire quoi?
Alors, clairement, on a souhaité, dans le groupe insuffisance cardiaque, pouvoir communiquer le plus facilement possible. Donc ces quatre lettres représentent E, cette fois-ci c'est pour exercice, P c'est pour prendre son poids régulièrement, on a vu que la prise de poids pouvait être un signe, O, alors cette fois-ci c'est pour observance régulière des traitements et du suivi qui doit être régulier, et N c'est ne pas trop saler, parce qu'en effet l'insuffisance cardiaque entraîne une rétention d'eau et de sel, et le fait de ne pas manger salé est un traitement important.
Jimmy ?
Et moi, j'ai constaté dans ma pratique quotidienne que les patients avaient du mal à observer le régime sans sel, en oubliant que le sel entraîne de la rétention et que la rétention fait fatiguer le cœur en quelque sorte. Vous avez constaté que les patients avaient du mal à suivre. Quelle règle la plus évidente parmi les 4?
Alors, en effet, manger peu salé, c'est compliqué. D'autant plus qu'il y a énormément de sel caché dans l'alimentation. Et c'est vrai que si on n'est pas aidé par une diététicienne, hein, qui est une professionnelle de santé et qui connaît extrêmement bien, c'est son métier, eh bien, ça va être difficile de manger réellement peu salé parce que y a des sels cachés, en particulier dans tous les plats transformés. Donc ça, c'est une première difficulté, mais globalement, les patients arrivent à se débrouiller. La réelle difficulté qu'ils rencontrent, c'est faire de l'exercice. Ça veut dire quoi, faire de l'exercice? En plus, les gens disent, moi, j'aime pas faire du sport, je suis pas sportif. Il faut bien comprendre que l'exercice physique, ça n'est pas du sport, c'est une activité physique régulière d'endurance qui va être adaptée aux patients.
Pour une petite mamie de 75 ans qui a un insuffisant cardiaque, elle peut faire quoi?
Elle peut marcher, elle peut sortir de chez elle tous les jours. Alors clairement,
faire ses courses à pied.
Mais voilà, on n'est pas, on va la faire ses courses à pied. Si elle n'habite pas trop, descendre les escaliers, remonter les escaliers. Et puis, bien évidemment, il y a un certain nombre de conseils pour que les gens puissent le faire eux-mêmes. Mais là encore, il est clair que le fait d'être accompagné par un professionnel qui va donner des conseils, ça va aider les gens. On peut faire de l'activité physique avec des petites haltères, avec un certain nombre de choses. C'est vrai que si on ne sait pas le faire tout seul, ça va être difficile. Et c'est réellement là que les patients rencontrent des difficultés. Mais de toute façon, la première chose, c'est sortir de chez soi, faire au minimum une demi-heure de marche. L'OMS conseille à toute la population générale 10 000 pas par jour, ça veut dire 1h30 de marche par jour. Ça, c'est clairement ce qui est défini par l'OMS et ce qui peut limiter les problèmes cardiovasculaires. Pour les insuffisants cardiaques, en tout cas pour certains, les plus âgés, ça va être difficile. Mais sortir de chez soi, faire une demi-heure de marche par jour, ça va améliorer les patients.
Sur les médicaments, vous disiez, aujourd'hui, on a des médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque. Ils sont vraiment indispensables, ces médicaments? Parce qu'on imagine qu'une fois que le cœur est fatigué, on ne peut pas le régénérer. Donc, ils servent à quoi, ces médicaments?
Alors, l'objectif, ce n'est pas de guérir, ce n'est pas de régénérer. Ça veut dire, l'objectif d'un traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est de vivre bien, de ne pas avoir de symptômes, de ne pas être hospitalisé et de vivre le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire je vais guérir mon cœur, mais je vais faire en sorte que mon organisme fonctionne correctement et que mon cœur fonctionne correctement. Donc oui, il y a un certain nombre de médicaments qui ont prouvé leur efficacité, en particulier quand le cœur a ce qu'on appelle une dysfonction systolique, c'est un gros mot, mais ça veut dire que la fraction d'éjection du cœur est abaissée. Il faut savoir que la fraction d'éjection normale du cœur...
Le sang sort du cœur à une certaine vitesse, une certaine force.
C'est pas une certaine vitesse, en fait, à chaque fois que le cœur se contracte, il éjecte un certain volume, et ça veut dire qu'il éjecte 60% de son volume normalement. Quand il, dans la majorité des cas de l'insuffisance cardiaque, le cœur va éjecter moins de sang et la fraction d'éjection va être diminuée. Donc en général, quand on parle d'insuffisance cardiaque par dysfonction systolique, quand la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 40%.
Jimmy ?
Et donc finalement, on a compris que c'était une maladie grave qui évolue, dont on ne peut pas vraiment stopper l'évolution, en tout cas on peut essayer de la ralentir un petit peu. Le but du jeu finalement, c'est de la dépister très tôt. Et donc il faudrait faire peut-être des échographies un peu plus souvent aux patients, même quand, avant d'attendre un stade très avancé.
Alors, où tout bien évidemment, il y a des patients à risque. Tout à l'heure, on a parlé des gens jeunes, mais il n'y a pas que les gens jeunes. Il y a une deuxième catégorie de patients. Je pense que les patients entre 40 et 70 ans, des patients hypertendus qui ont fait un infarctus, doivent être en effet surveillés régulièrement. Donc il y a les symptômes dont on a parlé. Il y a également cette prise de sang dont on a parlé, le dosage du BNP. Bien évidemment, au moindre doute, si on a les symptômes, si on a un BNP augmenté, il faut aller consulter un cardiologue qui fera une échocardiographie qui permettra de confirmer le diagnostic.
Et aussi dire que par exemple l'alcool peut entraîner des cardiomyopathies et donc on peut faire de l'insuffisance cardiaque sur une prise consommée régulière d'alcool.
Ah, tout à fait. Alors ça, tout à l'heure on parlait des toxiques chez des patients jeunes. Une consommation excessive d'alcool, en général c'est quand même des grosses doses, eh bien l'alcool est un toxique qui va abîmer les cellules du muscle cardiaque et entraîner en effet une cardiomyopathie. Ça ne passe pas cette fois-ci par un infarctus, mais ça détruit directement les cellules du cœur. Donc oui, l'alcool est un toxique.
Un mot peut-être pour terminer sur le cœur artificiel Carmat. On sait que ce cœur, on nous l'a vendu comme donc totalement implantable pour des patients justement insuffisants cardiaques. On retrouve les patients dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que justement pour eux, ça va être peut-être, aujourd'hui il y a quelques patients qui en ont bénéficié en France et en Europe. Certains sont déjà décédés, mais est-ce que ça va révolutionner la vie des insuffisants cardiaques ?
Alors pour l'instant, on est encore dans le cadre de la recherche. Le programme Carmat, pour l'instant, est en train de se remettre en route, mais pour l'instant, on est dans le cadre de la recherche. On a parlé tout à l'heure d'un million de patients insuffisants cardiaques. Actuellement, il y a à peu près 300 transplantations cardiaques par an. C'est vrai qu'il y a des problèmes de greffons et de choses comme ça, donc on essaye de trouver des solutions. Pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est plutôt des assistances ventriculaires plutôt que ces cœurs artificiels.
Donc le cœur effectivement artificiel, c'est pas encore pour tous les patients.
C'est pas pour tout. Ensuite, mais un jour certainement.
Merci beaucoup docteur Beauvais d'être venu sur notre plateau. Alors grâce à vous, on en sait plus sur cette maladie, une maladie encore mal connue, l'insuffisance cardiaque, y compris de certains médecins. Pourtant, plus d'un million de patients sont actuellement atteints. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé à ce qui peut être au final bien plus qu'un petit bobo. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le syndrome d'alcoolisation fœtale. On fera un point sur ce qu'une femme enceinte peut ou ne peut pas faire avec l'alcool pendant la grossesse.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, on va parler d'alcool et de grossesse aujourd'hui. C'est la journée mondiale de prévention du SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Mais avant de faire un point sur ce sujet, Benjamin Lévesque, comme chaque jour, a été vous donner la parole. À votre avis, le zéro alcool pendant la grossesse est-il justifié ? On écoute son micro-trottoir.
Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle a le droit de boire ? A priori, non. Et je déconseillerais de boire, effectivement. Sinon, je pense qu'il y a de gros risques pour l'enfant et même pour sa santé à elle.
C'est effectivement peut-être des malformations ou effectivement des maladies qui toucheraient le bébé, effectivement, dès sa naissance.
En soi, c'est moins dangereux pour elle que pour, j'imagine, l'enfant.
Quand j'étais enceinte, j'ai bu avant de le savoir. Et après, un petit fond de champagne à l'occasion. Je m'en suis pas voulu, parce que je le faisais en toute conscience. Après, je pensais pas abuser.
Moi, j'ai bu dans le verre de mon mari, alors que j'étais enceinte. C'est mal, c'est très mal. Donc je m'étais dit que de toute façon, si je prends juste une gorgée, il n'y a aucune étude qui prouve que ça a des risques sur mon fœtus.
Après, moi, je me suis toujours posé la question, finalement, quand une femme, elle boit, mais qu'elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte, est-ce que ça présente des problèmes ?
Moi, quand ma femme était enceinte, j'ai bu pour elle. Pour pas qu'elle soit frustrée, je buvais sa part.
Ah bah alors le mari qui a bu à la place de sa femme, effectivement, là au moins le bébé risque rien, c'est sûr. Alors Jimmy, aujourd'hui c'est la journée de prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale, mais il faut préciser que c'est pas ce qui arrive à tous les bébés dont les mamans ont bu de l'alcool pendant la grossesse. Le SAF, c'est la complication la plus grave qui puisse arriver.
Oui, et c'est des complications qui sont définitives et dont la prise en charge est très difficile et ça poursuit finalement toute la vie. Globalement, on peut avoir un retard de croissance, un petit bébé, des malformations cérébrales, crânio-faciales, un trouble du développement, un retard des acquisitions. Bref, vraiment des complications qui peuvent être vraiment très très lourdes pour l'enfant et aussi pour la maman. La maman peut souffrir de menaces d'accouchement prématuré, il peut avoir une mortalité pendant l'accouchement. Donc vraiment, 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 zéro alcool pendant la grossesse.
Alors ça, c'était le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Mais sans en arriver jusque-là, les conséquences de l'alcool sur un fœtus, elles peuvent être nombreuses en fait. Parce que concrètement, quand une femme boit, bah, son bébé, il boit aussi. C'est ça, il se passe quoi dans le corps?
Oui, en fait, le bébé est nourri et protégé par le placenta. Le problème, c'est que ce placenta ne peut pas filtrer l'alcool. Et l'alcool passe finalement dans le sang de la maman et à travers le bébé. Et c'est un retentissement au niveau des organes parce que ça empêche le bon fonctionnement et le bon transport des oxygènes et nutriments vers le bébé. Donc vraiment, c'est extrêmement dangereux.
Quel que soit le terme de la grossesse, qu'on soit au début, à la fin, le risque, il peut être à tout moment.
Exactement, on considère qu'il est le même du début à la fin. Donc soyez prudentes du début à la fin.
Alors, est-ce que le zéro alcool pendant la grossesse, vous savez, ce slogan qu'il y a d'ailleurs un peu partout maintenant, il y a des affiches parce qu'il y a des campagnes, et puis on voit la femme enceinte barrée sur les bouteilles, c'est pas un peu extrême? Moi, je connais quand même plein de femmes qui ont bu un peu d'alcool pendant la grossesse et leurs bébés vont très bien, il faut le reconnaître.
Non, mais tant mieux pour elles, j'en suis très content, mais néanmoins, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Et les scientifiques ne connaissent pas la dose minimale toxique pour le bébé, et finalement, cette dose en plus varie d'une personne à l'autre et d'un enfant à l'autre. Donc, d'une façon générale, on retient pas du tout d'alcool, car même finalement un ou deux verres pourraient avoir des conséquences graves sur votre bébé.
Et justement, on a des chiffres aujourd'hui sur les séquelles entraînées par la consommation d'alcool des mamans. Il y en a énormément, même en France. On a des chiffres récents.
Exactement. Le Santé publique France a communiqué ces chiffres-là. Et tous les jours, un enfant naît avec des complications liées à l'alcool. Un enfant tous les jours né avec ces complications, et un enfant par semaine né avec ce syndrome d'alcoolisation fœtale qui aura des conséquences pour toute sa vie, pour lui aussi.
Et c'est pas forcément des bébés de maman alcoolique,
exactement,
ou de maman qui ont le problème avec l'alcool. Pardon.
Évidemment, quand on souffre d'alcoolisme, quand on a une addiction, on est plus exposé. Mais finalement, l'alcool un peu occasionnel qu'on peut avoir de façon festive peut avoir exactement les mêmes conséquences. Donc c'est pas que, entre guillemets, un problème d'alcoolique. Souvent, on pourrait croire ça. Non, vraiment, soyez prudente.
Alors, il n'y a aucune honte à avoir. En plus, sachez, les femmes qui ont des questions concernant la consommation d'alcool au cours de leur grossesse, elles peuvent se tourner vers le dispositif d'aide Alcool Info Service. C'est 7 jours sur 7. Et si besoin, on vous orientera vers un praticien spécialisé. Merci beaucoup, Jimmy.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de sexualité et d'amour. Pour certains, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce ringard aujourd'hui? Elle nous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle de sexualité, bien sûr, comme tous les jours à la fin de notre émission. Mais aujourd'hui, on parle aussi d'amour. Pour certains, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est justement l'objet de la question que nous a adressée Sabrina. Elle a 36 ans, je vous la lis. Bonjour Catherine, je ne peux pas faire l'amour si je ne suis pas amoureuse. J'en ai toujours été incapable. Et même aujourd'hui, alors que je suis à nouveau célibataire après mon divorce, j'aurai le sentiment d'être une Marie couche-toi là. Mes copines me disent que cette idée est ringarde. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, est-ce que Sabrina est ringarde? La réponse à la question est assez simple. Est-ce qu'elle est ringarde?
Alors, il n'appartient à personne de décider si elle est ringarde ou non. C'est en tout cas son mode de fonctionnement. On peut s'interroger, bien sûr, savoir pourquoi elle ne peut pas faire l'amour sans être amoureuse. Qu'est-ce que l'amour dédouane ou autorise de la sexualité? Mais pourquoi faudrait-il absolument être libre de faire l'amour à n'importe qui, sans aucun sentiment et notamment sans sentiment amoureux? C'est un peu de nos temps modernes de penser qu'on devrait tous être opérationnels sexuellement avec n'importe qui, comme ça. Et puis après, on verra. Ben non, pour certains, c'est important de sceller une relation de confiance dont l'amour en est le dénominateur, enfin le point d'ancrage.
Apparemment, Sabrina a divorcé récemment, ce qu'elle nous a écrit. Si elle attend à nouveau d'être amoureuse, cela dit, elle peut quand même se retrouver sans sexualité du tout pendant un bon petit moment, mais c'est pas si grave en fait, c'est ça?
D'abord, il y a des gens qui tombent amoureux très facilement. À peine ont-ils croisé une personne qu'ils tombent amoureux, puis après ils se ravisent. Et puis d'autres, en effet, leur faut beaucoup de temps. Et on peut se demander si mettre du temps à tomber amoureux n'est pas une façon de se protéger de ce qui nous inquiète, à savoir recréer du lien avec quelqu'un, se remettre en scène et en selle sexuellement, ou du mal à quitter l'idée amoureuse passée et peut-être le chagrin vécu.
Jimmy ?
Est-ce que c'est, alors bon, moi je suis marié, tout va bien, mais est-ce que c'est un problème de femme, entre guillemets, que de ne pas vouloir de rapport sexuel sans être amoureux? Est-ce que les hommes ont exactement la même chose, mais finalement ne l'avouent un peu moins, ou pas du tout en fait?
C'est une très bonne question, Jimmy, parce que en effet, les femmes ont le sentiment...
Ils n'osent pas les poser, mais quand ils les posent, elles sont bonnes, hein, souvent, ah, Catherine, les questions.
Non, non, mais là, je trouve qu'il est sur le sujet amoureux, il est à l'aise. Tout d'autres, hein. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'en effet, pendant très longtemps, les hommes ont été accueillis de toute façon, de tout temps d'ailleurs, ont été accueillis dans leur désir sexuel sans qu'on ne leur, on leur reproche leur désir. Alors que les femmes, si elles étaient en désir sans sentiment amoureux, c'était en effet les prostituées, puisqu'elles étaient en désir d'argent, elles étaient en désir d'élévation sociale. Seule l'épouse parfaite, amoureuse, ou la mère qui cherchait à fonder un foyer était une femme digne de pouvoir parler de sexualité ou avoir recours à la sexualité sans être accusée de quoi que ce soit. Donc en effet, les femmes ont beaucoup plus de mal à s'accorder d'être en désir sans être totalement sûre d'être vraiment amoureuse. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, amoureux? Vous le savez très bien, vous êtes marié, vous êtes sans doute amoureux, mais il y a des moments où vous êtes aimant, pas amoureux, vous aimez votre femme
sans
être...
Non, moi je suis tout le temps amoureux, elle m'écoute, je suis tout le temps amoureux du matin au soir, alors, du lundi au dimanche.
Ne parlons pas, alors, Mélanie peut-être.
Moi je suis très amoureuse aussi, tout va bien.
Bon, okay. Alors, donc...
Alors justement, Sabrina, elle utilise le mot faire l'amour. Est-ce qu'on fait toujours l'amour finalement? Est-ce que c'est pas ça le problème de Sabrina, se poser la sexualité? C'est pas toujours faire l'amour, c'est ça?
Ouais, on fait pas toujours de l'amour ou la traduction de l'amour quand on fait l'amour. Quand on fait de la sexualité, on cherche son plaisir et de façon assez égoïste, sans qu'il en soit, on en soit coupable. C'est-à-dire, on recherche la stimulation, l'excitation, l'épanouissement de nos corps, de nos sexes, de nos sensations. Et mêlé d'amour, ça décuple ou au contraire, ça inhibe. Parce que parfois, à trop être amoureux, eh bien, on met la barre haute et du coup, on ne peut pas s'accorder le droit, en tout cas, on la met dans quelque chose d'assez auréolé, et du coup, on ne s'accorde pas le droit d'être dans des choses qui s'apparenteraient à quelque chose de plus animal, plus bestial, et peut-être selon les échos de la pornographie, par exemple.
Oui, parce que l'amour, dans la sexualité, c'est pas obligatoire. Il y a des gens d'ailleurs qui peuvent n'avoir jamais de jamais faire l'amour.
Oui, oui, il y a des gens qui s'aiment profondément, fortement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation en disant « Écoutez, je n'ai pas de désir et pourtant je suis très amoureux. » Et c'est justement là que le bât blesse. C'est parfois que cet amour est tellement un tout et tellement de l'absolu que la sexualité vient y mettre quelque chose d'un peu sale dans l'esprit de ces gens-là.
C'est bien pour Sabrina, par exemple, qui vient de divorcer, elle devrait essayer, vous pensez, faire une expérience sexuelle sans amour, justement, peut-être, ça vaut le coup d'essayer?
Peut-être en s'aimant elle-même et en se donnant le droit de s'accueillir là où elle est, en effet. Mais encore une fois, chacun a le droit de mettre tout le temps qu'il lui faut ou tout le contexte qu'il lui faut pour se sentir bien sans qu'il soit accusé de ringardise.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on parlera notamment dans notre grand dossier du jour de longévité. On vous révélera quelques secrets de centenaire. Ça devrait tous vous intéresser. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Je sais que vous êtes fatiguée Mélanie, vous avez tout donné pendant cette heure, mais restez avec nous parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe est sauvage, on reçoit un invité exceptionnel, Cédric Clapiche, qui sort un nouveau film mercredi. Vous avez aimé L'Auberge espagnole, vous avez aimé Le Péril jeune, c'est votre génération, c'est la mienne aussi. Vous allez adorer Deux mois, Rire et découvrir avec Cédric Clapiche. Vous allez voir, c'est encore meilleur.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.